6h03, nous sommes déjà la semaine qui passe vite, mercredi 17 avril, bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 FM, belle journée en vue, ciel dégagé, un petit peu frais ce matin autour de zéro, et on prévoit du soleil avec un maximum de 11. Il faut en profiter parce que dès demain, on entre dans une période de quelques jours de temps gris, couvert et de pluie. Pour demain jeudi, c'est de la pluie intermittente, 13 degrés. Vendredi, de la pluie, 18 degrés. Samedi, des averses, 11. Et dimanche de Pâques, on prévoit encore là de la pluie intermittente, 16 degrés. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est la dernière véritable belle journée avant ces 4 jours de mauvais temps. On revient, bien sûr, sur la situation à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Philippe Bonneville est sur place. Pour être très précis, il est tout près du parvis de la cathédrale, sur le pont qui enjambe la Seine, et c'est là que sont regroupés l'ensemble des médias du monde. Première question, Philippe, ce matin, les pompiers, les experts là, qui tentent toujours de sécuriser une partie de la cathédrale, là, il y a encore des éléments de structure qui menacent de s'effondrer.
Oui, il y a environ 80 pompiers qui sont ici, Paul, sur place midi, et on les voit qui continuent d'inspecter la structure à l'aide d'immenses grues, de nacelles également, parce qu'il y a ce pignon en forme de triangle qui est situé entre les deux tours avant la cathédrale, qui, lui, a été grandement fragilisé par les flammes, par l'eau également qu'on a projetée sur la structure, et ce pignon-là, il pourrait s'effondrer. Il y a une autre section de la cathédrale qu'on ne voit pas de là où je suis présentement, mais qui pourrait aussi s'effondrer sur une rue de l'autre côté du bâtiment. Il y a donc 5 immeubles dans ce secteur-là qui ont dû être évacués. Et pendant ce temps-là, eh bien, on est en mode sécurisation, évidemment. Ici, de leur côté, les 50 enquêteurs, eux, sont mobilisés pour trouver l'origine, la cause de l'incendie. Ils ne peuvent pas entrer, cependant, dans la cathédrale, ces enquêteurs-là, pour l'instant. Ne peuvent pas accéder aux débris calcinés, ne peuvent pas effectuer de prélèvement pour l'instant parce que c'est vraiment trop risqué de pénétrer à l'intérieur en raison de ces risques d'effondrement. Et pendant ce temps-là, il y a aussi... C'est l'heure du midi ici du côté de Paris et comme hier, il y a énormément de Parisiens, Paul, de touristes aussi qui sont ici pour voir en personne les dommages qui ont été causés à la cathédrale.
Je sais pas comment l'enquête va évoluer, mais je voyais hier, entre autres, qu'il y a certains témoins qui disaient que les flammes avaient pris naissance à la base de la flèche en question dans la structure. Mais ça, évidemment, il n'y a rien de confirmé. Maintenant, le président Macron a promis hier que l'œuvre de reconstruction serait terminée d'ici 5 ans, ce qui laisse plusieurs experts pas mal sceptiques.
Certains pensent que c'est carrément irréaliste de pouvoir reconstruire tout ce qui a été détruit en à peine 5 ans, parce que la cathédrale, elle a carrément été éventrée, surtout au niveau du toit, au niveau de la charpente. C'est encore beaucoup trop difficile pour l'instant de déterminer quels travaux devront être effectués selon les experts, de quelle manière on va les faire, combien ça va coûter tout ça, et surtout combien de temps ça va prendre. Et surtout, est-ce qu'on doit tout reconstruire, Paul, comme ça avait été fait à l'époque avec une charpente en bois faite de chêne? Est-ce qu'on devrait plutôt utiliser des matériaux plus modernes, plus résistants, plus légers, avec des technologies du 21e siècle? Question que ce soit plus rapide. C'est ce que plusieurs proposent. Voici d'ailleurs l'avis de ce Parisien que j'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui ici. Quelqu'un qui s'y connaît quand même passablement bien en architecture.
Je pense qu'il faut changer le mode de construction, hein, trouver des matériaux plus modernes. Il y a des matériaux composites maintenant, il y a des choses qui permettraient de retrouver la perspective, la même beauté de ce monument sur Paris.
Donc c'est pas de reconstruire de la même façon.
Non, je pense qu'il faut pas reconstruire de la même façon. De toute façon, Notre-Dame n'a jamais été construite pareil au cours des siècles. Hein. Il y a toujours eu des changements de technologie et beaucoup de réfections de cathédrales qui ont été faites suite aux guerres de 14-18, de 39-45, ont été faites avec des techniques du 20e siècle en fait. Et là, on est au 21e siècle. Je pense qu'on peut tout à fait construire des choses qui soient aussi beaucoup plus légères. Le toit, cette charpente, était extrêmement lourde. Bien sûr, la structure maintenant est fragile, la structure du bâtiment, donc il vaut mieux la recouvrir avec quelque chose de plus léger, mais de durable, et qui pourrait retrouver la forme qu'elle avait auparavant.
Et Paul, évidemment, peu importe la durée des travaux, que ça prenne 5 ans, 12 ans, 15 ans, ça va coûter extrêmement cher, et les dons des citoyens, des entreprises ici continuent d'affluer. Il y a un élan de générosité qui est colossal. On a dépassé aujourd'hui le cap du 1 milliard d'euros de dons au cours des dernières heures pour financer donc la reconstruction. En argent canadien, c'est presque 1,5 milliard de dollars. C'est énorme en moins de 2 jours.
Merci beaucoup, Philippe Bonneville, en direct de Paris. On peut ajouter quelques éléments. La facture, bien sûr, sera très élevée. Il y a des gens qui se demandaient, est-ce que Notre-Dame de Paris s'était assurée? Est-ce que c'est d'abord, est-ce qu'on pouvait assurer une telle église? La réponse, c'est non, parce que toutes les églises, depuis déjà fort longtemps, qui ont cette valeur historique, sont la propriété et la responsabilité de l'État. Donc, c'est l'État qui va payer. Et quand vous regardez comment on a pu amasser autant d'argent si rapidement, ben, ce sont les grandes fortunes françaises qui ont contribué. On peut penser à L'Oréal, là, la famille Bettencourt, Arnaud également. Alors bref, c'est comme ça qu'à coup de 100, 200 millions, on est allé chercher beaucoup d'argent. Je fais une parenthèse, j'ai pas pu le valider. Je vous lance ça, il y a peut-être des historiens qui nous écoutent ce matin quand on parle de reconstruction. Il y a un auditeur qui m'a donc écrit pour me dire qu'il y a bien longtemps, il y avait un incendie qui avait touché le marché Bon Secours. Et l'incendie avait détruit le dôme et une partie de la toiture. Et là, on remonte à plusieurs décennies dans le temps. Et à l'époque, on avait décidé de reconstruire, évidemment, mais la décision avait été prise de maintenir donc le cachet historique, mais de changer les matériaux. Ça a été remplacé par une ossature en acier. Alors, je pense que c'est vrai, là. C'est donc dire que c'est pas nécessaire de tout refaire avec les matériaux. Est-ce qu'on va refaire la forêt, donc les charpentes à l'intérieur de Notre-Dame? Il y a bien des gens qui pensent que ce serait inutile et que comme Notre-Dame a évolué au cours de ses 800 ans, ben ce serait normal, comme disait ce spécialiste tantôt qui parlait, de peut-être se tourner vers des matériaux un peu plus modernes. Maintenant, ici, parlons du dossier de la laïcité. D'abord, pour vous dire qu'il n'y aura pas de statut pour Montréal, puis là-dessus, tous les partis politiques sont d'accord. Et évidemment, on peut comprendre la prise de position de Mme Plante, M. Pérez, en disant « ça nous touche particulièrement à Montréal et c'est pas dans notre façon de vivre et on pense que c'est rien pour améliorer les relations entre citoyens ». C'est vrai que Montréal a un statut, c'est vrai que Québec a un statut, c'est vrai qu'il y a des lois qui peuvent s'adapter à la réalité montréalaise. Puis là, on peut penser tout de suite, le virage à droite est interdit à Montréal, puis est permis ailleurs sous certaines conditions. Mais là, vous pensez sûrement pas que le gouvernement du Québec va dire une loi de la laïcité ne s'appliquera pas sur le territoire montréalais. Ça n'a aucun sens. C'est comme si on disait, écoutez, la loi 101, c'est très bien, mais comme il y a des réticences à Montréal, là, on ne l'appliquera pas non plus aux écoles montréalaises. Voyons, non. Alors, je ne sais pas ce qu'on visait par ça, mais la fin de non-recevoir est arrivée rapidement. Ensuite, ben vous avez encore les dérapages. Puis là, je me tiens loin, je dois dire, des réseaux sociaux parce que autant chez les pros que chez les antis, il peut y avoir des propos réfléchis, mais il y a souvent ben des niaiseries et des propos absolument délirants. Puis le dernier en lice, tu sais, là, ça nous présente ça comme étant de l'humour, là, puis on sait que ça ne l'est pas, là, puis c'est pas le cas pantoute. Alors, c'est l'ex-candidate Ève Thorez, candidate de Québec solidaire, candidate voilée, qui fait maintenant dans les médias et qui prétend avoir voulu faire une farce sur Facebook. Et là, on la cite. Évidemment, elle s'est rétractée, le message a disparu. Manon Massé lui a dit d'enlever ça. « Quand tu interdis aux autres de porter leurs signes religieux, tu fâches notre ami, entre guillemets, imaginaire. Puis voilà le résultat. » Et elle enchaîne en disant que si j'étais François Legault, je ferais dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame, a-t-elle ajouté. Et elle dit que c'était une blague. Elle-même, originaire de France, elle a passé plusieurs années à Paris d'éprouver une affection particulière pour les églises. M'excuse, là, mais quand t'es un ancien candidat, une ancienne candidate, d'abord, je suis pas certain si c'était de l'humour, là. Si c'est de l'humour, c'est pas drôle. Dans le contexte, tu peux pas commencer à délirer comme ça. Et il y en a, malheureusement, de plus en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un débat tellement émotif, qui polarise tellement, qu'on a nos petites dérapes pratiquement au quotidien concernant ça. Alors, est-ce qu'il y aura des modifications à la loi? Le ministre a dit pas sur les principes, bien sûr, sur certaines modalités. Là, je pense à ce que Boucard Diouf nous a dit quand il est venu cette semaine, que, par exemple, on pourrait deux choses. On pourrait permettre si on tient compte du droit acquis, aux professeurs qui portent déjà le voile Donc, de garantir que s'ils demeurent dans le réseau public d'éducation, s'ils changent d'école, ils conservent ce droit, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pour les étudiants et étudiantes qui sont déjà en enseignement, qui ont déjà amorcé leurs études, est-ce qu'on pourrait leur reconnaître ce droit-là aussi? Alors, est-ce qu'on va aller dans cette direction? On sait qu'on veut l'adopter, la fameuse loi, assez rapidement, d'ici la fin des travaux parlementaires en juin. 6h13, on va aller retrouver Marc. Il faut dire à nos auditeurs ce matin, coïncidence, on est tout près du début du congé de Pâques et le prix de l'essence, c'est pas loin de 1,40 $ le litre à Montréal. Ça tombe comme ça. Bon, c'est le retour au pouvoir des conservateurs unis. C'est le nouveau nom du parti en Alberta. L'ex-ministre de Stephen Harper, Jason Kenney, qui a été élu, c'est plus de 50% des voix. Le NPD s'est fait battre solidement. L'ex-première ministre, Mme Notley, elle a été élue dans sa circonscription. Mais ce qu'il faut retenir de cette victoire, donc c'est un retour, si vous voulez, à ces gouvernements conservateurs en Alberta. Et on a vu le discours de M. Kenney hier. Là. D'abord, il répète très clairement que le pays, donc tous les Canadiens, ont besoin de pipelines pour la prospérité. Et il va se battre évidemment, contre la Colombie-Britannique, il va se battre contre les autres provinces, et pensons au Québec, et aussi avec le gouvernement fédéral. Je ne vous dis pas qu'il est en mode d'affrontement, mais c'est clair qu'il y a un mandat très, très puissant de l'électorat et que M. Kenney veut développer les sables bitumineux, veut développer l'industrie pétrolière. On sait que le gouvernement a été durement frappé. C'est un gouvernement qui était hyper prospère pendant des années avec des surplus grâce aux revenus du pétrole. Et là, il y a eu des pertes d'emplois, il y a des déficits. Donc, c'est sûr que c'est une offensive là, à l'approche de la campagne fédérale pour mettre en valeur le pétrole albertain. Alors qu'au même moment, il y a un rapport fédéral qui indique que la production de pétrole bitumineux en Alberta émet désormais plus de gaz à effet de serre que le Québec au grand complet. Son expansion est telle qu'elle annule des améliorations dans la production d'électricité et dans les processus industriels, dit le rapport, c'est dans la presse de ce matin. Et on sait que le Canada s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire les gaz à effet de serre, mais ça ne fonctionne pas. Non seulement la consommation de pétrole continue d'augmenter, et ce qui est un peu, quand vous regardez les chiffres, là, le Canada est responsable de 1,6% des émissions mondiales. Vous me direz, c'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est sûr. Mais les émissions par habitant, parce que le Canada est un petit pays, dans le fond, c'est parmi les plus élevés dans le monde. Alors, c'est vrai que ça représente peu, mais nous polluons quand même beaucoup. Alors, vous avez ces détails de ce rapport fédéral dans la presse de ce matin. Maintenant, un mot sur la situation à Beauceville. C'est l'état d'urgence, le centre-ville qui est inondé. Il y a au-delà de 250 résidences qui ont été évacuées. On sait également que du côté de Gatineau, on se prépare à des inondations importantes. Les citoyens sont invités à déjà se préparer avec des sacs de sable. Et on sait qu'on a fait une entrevue il n'y a pas si longtemps avec le maire de Gatineau, justement, comment les villes doivent se préparer pour les changements climatiques et l'effet des changements climatiques avec des tornades, avec la crue des eaux. Remarquez que il y en a eu dans le passé, mais comme les climatologues vous le diront, on peut s'attendre à une baisse de la fréquence, c'est-à-dire que, en fait, pas de la fréquence, mais de l'intervalle. On va en avoir de plus en plus, puis de plus en plus sur des espaces rapprochés et assez intenses, que ce soit la montée des eaux, que ce soit les vents, que ce soit des tempêtes en hiver, ces changements-là commencent déjà à se faire sentir. Alors ça, c'est pour la situation concernant les inondations au Québec. Mais il y a d'autres rivières qui demeurent sous surveillance. Là, je vais vous parler d'un cas. Et je vais être très prudent parce que je ne veux pas qu'il y ait de conséquences pour le père en question. C'est un père qui a mis sur Facebook une note lundi. Et il raconte, là, puis je vous résume ça, qu'il attend depuis plusieurs semaines que la commission scolaire de Montréal présente son plan d'intervention pour accompagner son fils, enfin leur fils, qui a reçu un diagnostic. Il est autiste. Et il a rencontré la directrice de l'école pour se faire dire que le fils sera transféré dans une autre école pour terminer son année. Je rappelle qu'on est à la mi-avril, puis que l'année scolaire, ça se termine dans 2 mois. Alors, c'est une école plus loin de sa résidence. Et on dit que, comme c'est une école dans un quartier défavorisé, il va y avoir un maximum de services. et on lui apprend qu'il va commencer dans sa nouvelle école mardi prochain et que ce sera donc la dernière journée à l'école avec l'enfant. Là, je rappelle que cet enfant-là, il est autiste. Et je ne dis pas qu'il ne peut pas changer d'école ou qu'il ne doit pas changer d'école ou qu'il ne doit pas être placé dans une classe où il y a plus de ressources. C'est une affaire. Mais comme le père le mentionne, on peut-tu prendre le temps avec un enfant comme ça, là, de bien faire les choses, que les parents se rendent à l'école, voir de quoi ça a l'air, dans quel milieu on envoie leur enfant, d'amener tranquillement l'enfant à voir l'école, à ne pas penser qu'il est expulsé, qu'on l'a chassé de son école. Alors, là, vous comprenez le choc pour les parents, là. Puis là, on leur annonce ça, là, assez brutalement. Évidemment, les choses se sont un peu bousculées et la commission scolaire a finalement proposé une démarche plus raisonnable, plus humaine. Et dans les prochains jours, les parents vont s'occuper de leur enfant qui amorce, et là je vais citer le père, une période de transition qui ne sera pas de tout repos. Ils ont eu des excuses de la directrice et de la commission scolaire qui plaident une erreur de communication. Donc, chez moi, l'erreur de communication, là. Alors, ils vont faire ça tranquillement. Leur fils passe sa deuxième nuit à l'hôpital parce que les parents ont été obligés de lui dire qu'il changeait d'école, puis il a vécu ça comme un rejet. Alors, il était gardé, il était agité, j'ai pas les détails. Mais tout ça pour vous dire, là, tu sais, on parle beaucoup de santé mentale puis d'enfants qui ont surdiagnostiqués, des enfants qui ont le mauvais diagnostic, des enfants qui ont besoin de soins puis qui sont pas capables d'en trouver. Hier, j'ai reçu je ne sais pas combien de courriels de parents, de conjoints qui ont vécu le suicide d'un proche. Je parlais de cette jeune femme de 23 ans, une infirmière à Trois-Rivières, qui s'est enlevée la vie malheureusement, puis qui a laissé un message en disant à quel point elle avait fait des démarches. Sa mère qui était avec nous, qui a malheureusement découvert le corps de sa fille, dit, ben, je veux partager ce qui nous arrive. C'est un peu aussi la volonté, ou c'était la volonté de ma fille, pour que on s'ouvre davantage à cette réalité, qu'on en soit plus conscient. Puis là, je comprends que le discours officiel de l'univers politique, mais tu sais, il me semble, là, on est dans les débats là, sur la laïcité, puis je comprends, il faut le faire. Là. Mais il y a des enfants qui souffrent, il y a des adultes qui souffrent. Quand, par exemple, t'as une fille ou un gars qui a 27-28 ans, puis comme parent, tu le vois dépérir, puis tu peux pas vraiment le forcer à se faire soigner, ou en tout cas, c'est pas simple, là. Et qu'il se cogne à des portes fermées parce qu'il n'y a pas de ressources. On comprend que ce sont pas tous des cas qui nécessitent une rencontre avec un psychiatre, puis ça nécessite une présence à l'hôpital. Mais on fait quoi? C'est une réalité humaine, ça, au Québec. On fait un reportage, on fait une entrevue une fois de temps en temps. Puis à chaque fois, le cas de la commission scolaire de Montréal, c'est ça. T'sais. On prend votre enfant, c'est pour son bien, puis on va le changer de place. Et c'est demain. Mais tu dis, parce que là, il est autiste, il est fragile, on peut-tu prendre le temps de... Non, non, ça va être comme ça. Là, tu rends ça public sur Facebook. Oh! Commission scolaire de Montréal recule. La direction d'école, c'est une erreur de communication. Sérieusement, c'est comme Mme Torres qui dit, c'est une blague, là. Je fais une joke sur une église qui brûle, puis je dis à Legault de mettre des pompiers dans l'église Notre-Dame à Montréal. Hey, vous n'avez pas compris mon humour. D'abord, elle a l'air comique. C'est quand vous la voyez puis que vous l'entendez, là, ça a l'air vraiment, là, elle est due pour le festival Juste pour rire, là. C'est, elle est bonne. C'était pas une joke. C'est une niaiserie. C'est une dérape. Bien, commission scolaire de Montréal, c'était peut-être... un peu aussi ça. Il y a Québécois et Bell qui se retrouvent devant le CRTC aujourd'hui. Alors évidemment, c'est suite à l'affrontement concernant les fameuses redevances versées par les distributeurs de services. Et Québécois qui se plaint de ne pas avoir sa juste part du gâteau. Et on s'est coupé le signal pendant une journée aux abonnés et légalement, ils n'avaient pas le droit de le faire. Alors on s'en va plaider devant le CRTC. Aussi, les infos ont été rendues publiques hier concernant la Caisse de dépôt et de placement. Et la rémunération des cadres a augmenté substantiellement. Et c'est pas Michael Sabia qui a le plus haut salaire. Là, en fait, la rémunération la plus importante, c'est le chef des placements privés qui se trouve en Angleterre et qui, lui, fait 4,4 millions par année. On dit également dans le rapport que on sort tranquillement du secteur, par exemple, du pétrole. Donc, il y a une prise de conscience à ce niveau-là au sein de la Caisse de dépôt et de placement. Et puis, dans le Journal de Montréal, un mot pour vous dire que on a beaucoup parlé de l'AMF qui aurait, en tout cas à l'époque, stoppé des enquêtes concernant le projet Faucon, concernant de la magouille et aussi des délits d'initiés. Donc, des anciens employés qui prétendent que ça a été étouffé pour des raisons peut-être politiques, ce qui a été évidemment nié. Et là, on apprend qu'un ex de SNC-Lavalin a été embauché à l'époque par l'Autorité des marchés financiers comme responsable globalement des enquêtes. Réponse de l'AMF, compte tenu que c'était délicat, il s'en est pas mêlé, supposément. Il est 6h24 minutes. 40 secteurs de Repentigny.